Écoutons voir le podcast proposé par le Bar à Photo.
Dans cet épisode, nous allons parler du pouvoir du reportage photographique pour casser les clichés avec la photographe Séverine Gallus.
Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Séverine Gallus, photographe de l'exposition Trisomique et alors, dont le vernissage se tiendra demain, mercredi 13 mars, à 18h au Bar à Photo. Donc tout d'abord, bienvenue Séverine et merci d'être avec nous.
Bonsoir, merci de m'accueillir.
Et du coup, pour parler un petit peu de ton exposition, on va d'abord revenir sur ton parcours, ton histoire vis-à-vis de la photographie. Est-ce que tu peux nous présenter pour commencer qu'est-ce qui t'a amené à faire de la photo, depuis quand tu en fais, etc.
Mais j'en fais pas depuis si longtemps que ça. C'est, bon, j'en ai fait mon métier, mais c'est mon troisième métier. Et en fait, je suis venue à la photo... En revenant en France, après avoir passé 12 ans au Québec, où j'étais journaliste, journaliste en presse écrite, donc voilà, bon, j'écrivais principalement, mais bien sûr, ayant longtemps travaillé dans les médias, je baignais quand même dans l'image, la photo, même si je la pratiquais surtout en amateur et puis pendant mes vacances, mais pas de manière assidue. Et quand je suis rentrée en France en 2014, mais je me suis retrouvée mère au foyer. Et puis voilà, quand j'avais terminé mes corvées quotidiennes, si on peut dire, je me suis replongée un peu dans mes photos. Et je me suis inscrite en fait au club photo à Foix. À la fois pour essayer justement de me faire un réseau d'amis. Et puis pour aller chercher des connaissances techniques qui me manquaient. Et voilà, c'est comme ça en fait que je me suis mise doucement à la photo. J'ai commencé à publier des photos sur les réseaux sociaux, principalement Facebook, et puis j'ai eu d'excellents retours. Et puis petit à petit, ça a pris de plus en plus de place dans ma vie, jusqu'à me lancer et en faire mon métier. En fait, je me suis déclarée professionnelle en 2017 parce qu'on... On est venu me chercher pour faire un mariage que j'ai accepté, même si ça me faisait bien peur. Et puis à partir de là, voilà, j'ai décidé d'en faire mon métier, à la fois en tant qu'artisan et puis bon artiste. Voilà, je fais quelques expos. Je ne vis pas de mon art, mais plus de mon artisanat en fait.
D'accord. Et du coup, tu viens à la base du journalisme.
Voilà, oui.
Et comment on bascule d'un métier de l'écrit à un métier du visuel ?
Mais en fait, par l'envie de raconter des histoires. je suis devenue journaliste parce que je suis curieuse de nature. Je suis quelqu'un qui me lasse très très vite. Donc je trouvais que le journalisme me correspondait bien parce que justement, chaque article est différent, c'est un sujet différent et il y a peu de place à l'ennui dans ce métier. Et bien sûr, moi j'adore apprendre et informer et puis raconter quand on a des sujets super originaux. Enfin, c'est un vrai plaisir, quoi. C'est pas un travail. Mais par contre, quand venait le moment de passer à l'écriture, c'est-à-dire que je prenais énormément de plaisir à faire toute la partie recherche, enquête, recherche, fouiller, creuser, interviewer. Et quand venait le moment de passer à la rédaction, c'était toujours un peu fastidieux pour moi. L'écriture ne coulait pas de source. Et en fait, comme je dis souvent, une photo vaut mille mots. Et comme je peux être un petit peu feignante, des fois, je trouvais que raconter avec des photos, c'était bien plus simple et bien plus facile pour moi, finalement. Les gens m'ont dit que j'avais un talent. J'ai mis longtemps, j'ai eu du mal à le croire et j'ai mis longtemps à l'accepter. J'avais un peu le syndrome de l'imposteur, étant donné que je n'ai pas fait d'école de photo. Hein, j'ai appris sur le tas et puis je suis allée chercher les techniques qui me manquaient en club photo. Donc j'avais ce syndrome de l'imposteur et j'ai eu du mal à m'accepter en tant que photographe à part entière. Ce qui est certain, c'est que j'ai plus de facilité à raconter des histoires avec des photos qu'avec des mots. Et justement, photographie veut dire écrire avec la lumière. Donc j'ai cette facilité-là. Et puis à 52 ans, oui, je pense avoir trouvé ce talent, ouais, je pense, voilà, que j'ose dire maintenant, que j'ai eu beaucoup de mal à dire, mais j'ose dire maintenant, parce que bon, j'ai fait suffisamment d'expos et j'ai eu suffisamment de prix maintenant pour me dire que bon, voilà, j'ai quand même un petit talent, quand même, je l'accepte.
Et du coup, quels sujets photographiques sont venus au tout début, enfin, quand tu as commencé du coup, en autodidacte à te lancer dans la photographie, qu'est-ce qui t'a attiré en premier lieu ?
Ben, disons, c'est sûr que bon, j'ai toujours aimé faire de la photo et je faisais de la photo pendant mes vacances. Donc c'était à la fois des photos de vacances sur les choses que je découvrais, que je ne connaissais pas. Et puis bien sûr, très rapidement, ça a été mes enfants qui gravitaient autour de moi. Et quand je me suis mise à m'intéresser à l'aspect peut-être un peu plus technique que juste prendre des photos souvenirs, mais forcément, j'ai beaucoup photographié mes enfants. D'abord mon fils aîné, qui maintenant a 18 ans. Voilà, c'est un petit garçon très 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 mignon, donc très photogénique. Donc il a été mon modèle pendant très longtemps. Après est arrivée sa sœur 3 ans plus tard, qui bien qu'elle soit différente, elle avait aussi sa part de photogénie et puis justement c'est quelque chose en plus qui fait que je voulais documenter et montrer que voilà, elle était belle dans toute sa différence. Donc mes enfants ont été mes principaux sujets. Et puis c'est avec eux que je me suis que j'ai fait mes armes en photographie. Ça c'est sûr. Oui.
Du coup, l'enfance prédomine ton travail, c'est un thème qui t'est cher, on comprend bien.
Oui, alors bien sûr, oui, c'est avec mes enfants que j'ai vraiment démarré la photo, que j'ai aiguisé mon œil, ma technique. Ça a été mes premières expositions. La première expo que ma toute première exposition, c'était à Aix-en-Provence. J'avais la chance d'avoir des voisins en Ariège qui avaient leur résidence secondaire en Ariège. Et le monsieur était directeur d'une maison de la culture à Aix-en-Provence. Et quand je lui ai montré mes photos, il m'a dit « je t'expose ». Donc il a été le premier à m'exposer. Ça a été des photos de mes enfants. Puis j'ai appelé ça « nature d'enfant ». Parce qu'effectivement, je l'ai photographié dans la nature, en Ariège. Puis en même temps, leur pose, leur mimique, c'est un peu un jeu de mots, nature d'enfant, à la fois dans la nature et à la fois leur bouille de drôlerie, de parfois de tristesse, leur moue boudeuse, voilà, des petites moues d'enfant. Et puis voilà, c'était ma première expo. Qui a eu son petit succès. Et puis, assez rapidement, en fait, j'ai voulu faire un travail plus précis sur ma fille, justement pour tenter de démystifier sa trisomie. Parce que, bon, je voyais bien que ça allait être quelque chose qu'il allait falloir se battre pour l'intégrer, que ce soit à l'école, dans la société. Et puis moi, je la voyais comme une petite fille pleine de vie, pleine de joie, que je n'ai pas éduquée différemment de son frère. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas me servir de toutes ces photos pour montrer que finalement, elle n'est pas si différente que les autres enfants. Et donc, voilà, de la série Nature d'enfant, en fait, j'en ai fait une série à part entière uniquement, avec pour sujet uniquement ma fille, même si c'est... Ma fille est trisomique, mais elle ne représente pas l'ensemble de la trisomie. C'est comme l'autisme, le spectre est large. Comme je dis souvent, j'ai la chance d'avoir une super triso, parce qu'elle est quand même hyper autonome. Elle a été très éveillée, très petite. Voilà, c'est une enfant trisomique. Mais voilà, je voulais me servir de mes photos pour montrer que avoir un enfant trisomique, c'est compliqué, certes, mais c'est pas la fin du monde.
Et justement, donc l'exposition que nous, on accueille est centrée sur Sidonie, du coup, sur ta fille. Tu as choisi comme titre d'expo « Trisomique et alors ». Est-ce qu'il y avait cette volonté, dès le titre, de dévoiler directement... Enfin, c'est un titre quand même qui est très... comment dire, il est présent, on comprend de suite de quoi le sujet de l'exposition va parler, alors que tu aurais pu justement avoir envie que ce soit plutôt en sous-texte. Donc là, il y a comme une volonté, en plus,
d'interpeller.
Voilà,
oui. C'est très fort. Il y a une vraie volonté d'interpeller le public, le spectateur, sur à la fois la différence et la non-différence. Parce que dans toute la série de photos que j'ai faites au cours des années, sur un peu plus de 10 ans, il y a certaines photos où on voit qu'elle est dans son monde, un peu à part, des photos où elle est triste. Il y a une photo notamment où il y a un petit garçon qui se moque ouvertement d'elle, même si ça a été une photo prise sur le vif. La plupart des photos ont été prises sur le vif, mis à part quelques-unes où elle joue un peu les divas, mais la plupart des photos ont été prises sur le vif. Donc elle a vraiment été saisie à la fois dans des moments, voilà, où elle est dans sa bulle, des moments où elle est joyeuse, des moments où elle est triste. Et en fait, oui, j'interpelle le spectateur parce qu'en fait, elle a ces photos montrent une vie d'enfant, et qu'elle soit trisomique. Si j'avais fait une série uniquement sur mon fils, on aurait pu retrouver les mêmes scènes. Et pourtant, lui, il n'a pas de handicap, il est beau comme un dieu, il est hyper intelligent. Et voilà, et là c'est une série que j'ai voulu focusser sur ma fille parce que justement elle a ce gène en plus qui la met à part, dans une case à part. Ça, c'est, il faut le dire parce que c'est la société qui la met à part. Et alors quoi. Et alors vous savez, avec sa deuxième maman, mon ex-femme, on n'était pas pour l'intégration à tout prix, mais on a quand même tout fait pour qu'elle soit dans le cursus scolaire dit classique. Et Sidonie est allée dans le cursus classique jusqu'en 5e, avec une AVS. Enfin, bon, ça change régulièrement de nom, mais enfin, une auxiliaire, voilà, pour l'aider en classe. Et on l'a retirée du collège en 5e, non pas parce qu'elle n'avait plus les capacités d'apprentissage requis pour continuer, même si ça devenait de plus en plus compliqué, hein, faut pas se leurrer, mais tout simplement parce qu'elle n'avait plus d'amis à l'école. Elle était toute seule, tout le temps, dans la cour de récré. Donc, et en fait, Sidonie est devenue malheureuse parce qu'elle n'avait plus d'amis. Donc, bon, alors après, on sait qu'au collège, les enfants ne sont pas tendres, hein, les uns envers les autres. Mais on l'a retirée du collège, voilà, parce qu'elle n'était plus... Elle n'était plus dans son élément. Elle était triste, pas heureuse. Donc du coup, on l'a mis dans un IM Pro, donc un institut, je ne sais plus les termes exacts, mais enfin bon. Elle est dans un IM Pro avec une quinzaine d'enfants qui sont porteurs d'un handicap et dans lequel elle est complètement épanouie. Parce que là, voilà, elle n'est pas... Elle n'est pas mise de côté. Donc justement, il y a une espèce de vivre ensemble, une bienveillance. Et bon, en même temps, je trouve ça génial pour elle parce qu'elle est heureuse. Elle a un petit copain. Voilà, elle est hyper épanouie. Et en même temps, je trouve ça dommage parce que bah, du coup, malgré nous, malgré elle, quelque part, elle est au banc de la société. Elle est dans un enfermée dans un... Enfin, bah, je ne vais pas dire enfermée, mais... Elle n'est plus intégrée dans la société. Même si elle reçoit des cours en vue d'une autonomie, en vue de pouvoir travailler, de s'insérer dans la société. Mais bon, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. J'ai l'impression que le handicap, pour moi, le handicap vient de la société, ne vient pas de Sidonie. Je trouve que c'est la société qui renforce son handicap. Et je trouve ça dommage.
Quand vous présentez une expo comme ça qui s'appelle Trisomique, et alors, qu'est-ce que vous avez du coup envie de transmettre comme message ? Qu'est-ce que vous attendez du public ? À la fois, on sent... Si vous ne mettiez pas ce titre, c'est possible qu'on ne sente pas spécialement... On sente une différence dans les photos qui questionne, mais peut-être même pas tant. Peut-être que c'est grâce finalement aux écrits, aux textes qu'on comprend le sujet. Sinon, on pourrait se dire que c'est l'enfance, que oui, peut-être qu'il y a une différence dans cet enfant, mais peut-être on pourrait passer à côté. Donc, est-ce qu'à travers ce titre et les textes aussi qui l'accompagnent, etc., vous avez envie que justement on passe pas à côté de ça? Quelle est l'idée? Qu'est-ce que vous avez envie que le spectateur retienne?
Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse plus de place à la différence. Mais ça a toujours été un thème qui revient dans mes photos, parce qu'il y a en 2017, je suis allée en Afrique du Sud et j'ai eu l'occasion de photographier tout un groupe de transsexuels sud-africains, tous porteurs du VIH et qui vivent dans la rue, donc des SDF, porteurs du VIH, transgenres. Je les ai rencontrés parce que je participais avec ma sœur à une soupe populaire et c'est comme ça que je suis tombée sur eux. Moi-même, je suis homosexuelle, donc... mais bon, moi, ça ne m'a pas posé problème. Je veux dire, jamais une seule fois, ça m'a handicapée dans ma vie, aussi bien plus jeune qu'adulte. Mais bon, c'est une chance. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc forcément, j'ai une sensibilité à la différence à la base. Et en plus, voilà, j'ai une enfant qui est différente de par sa trisomie. Donc... je milite malgré moi, parce que c'est pas tatoué en moi, c'est pas, mais malgré moi je milite pour faire plus de place à la différence et que ça en devienne comment dire que la présence du handicap dans notre vie quotidienne devienne quelque chose de on devrait même plus se poser de problème. Bon, je parle du handicap mental, mais aussi du handicap physique. Bon, je sais que des gens qui sont en fauteuil roulant se battent comme des acharnés pour qu'ils aient accès plus facilement, ne serait-ce qu'au transport en commun, enfin plein de choses. Et ça devrait aller de soi, je trouve, que notre société fasse plus de place à la différence. Et bon, au niveau de la trisomie. Enfin, moi, je parle que pour ma fille, parce qu'elle a des capacités d'apprentissage. Je sais qu'elle va être autonome parce qu'elle est hyper dégourdie. Donc, j'ai aucun doute qu'elle sera autonome, qu'elle pourra avoir une vie de couple. Si elle aura envie de se marier, elle se mariera. Bon, avoir des enfants, c'est plus compliqué, mais... Malheureusement, bon, elle sera toujours sous tutelle, forcément. Mais par contre, elle est capable d'avoir un boulot, d'être autonome. Et puis, j'aimerais qu'on les voit plus dans notre société, les trisomiques. Bon, je sais qu'il existe des restaurants où ils sont serveurs. Je vois des cas qui passent sur Facebook. J'en suis un qui veut être top modèle, et puis il arrive à faire des défilés. Voilà, il y a des marques qui commencent à lui faire confiance, comme Célio, il défile pour Célio. Bon, je sais que petit à petit, voilà, ça prend du temps, ça prend du temps. Et puis moi, voilà, à mon petit niveau, j'espère que mes photos vont interpeller le spectateur sur le fait que il faut faire plus de place à la différence de manière générale, pas juste la trisomie, pas juste le handicap, à la fois bon, j'ai 52 ans, je vois bien que, ne serait-ce que, je vois l'évolution qui a été faite dans les mœurs par rapport à l'homosexualité, l'homoparentalité. Bon, je sais que, voilà, ça a fait beaucoup de chemin depuis ma jeunesse. Moi-même, je ne pensais pas pouvoir me marier un jour et avoir des enfants, donc on vient de loin. Donc les mœurs évoluent. Et en même temps, on est obligé de faire attention, comme d'inscrire justement l'IVG dans la Constitution, ce genre de choses. On voit bien quand même qu'il y a un retour, de valeurs rétrogrades, hein, qui essayent de s'immiscer petit à petit dans la société. Donc d'un côté, on a une ouverture sur plein de choses. Et en même temps, il faut être vigilant, il faut continuer de se battre. Donc, bon, voilà, mon petit niveau, moi, j'essaye d'ouvrir les esprits, quoi.
Bien sûr. Et du coup, pour revenir sur L'expo et le temps qui a été figé dans cette exposition. Justement, en parlant de temps, quel âge a Sidonie sur les photos qui sont exposées et pendant combien de temps, à partir de quel âge tu as commencé à la photographier? Est-ce que tu continues à la photographier aujourd'hui?
Alors, j'ai commencé, bon, elle était bébé, là, il y a des photos où elle doit avoir 2 ans, 2-3 ans, jusqu'à, je dirais, 11-12 ans à peu près. Après, j'ai arrêté de la photographier parce que bon, j'ai eu des problèmes avec mon ex qui m'a enlevé le droit à l'image des enfants. Donc, j'ai pas pu exposer justement ces photos pendant très longtemps parce que je ne pouvais pas. Et du coup, ça m'a un peu coupé l'herbe sous le pied. Donc, j'ai arrêté de la photographier. Après, il faudrait que je m'y remette un peu. Maintenant, elle a 15 ans. C'est une belle ado. Bon, elle a changé physiquement. Elle a grandi, bien sûr. Bon, bien sûr, il faut que je voie avec mon ex aussi. Voilà, si je peux... Enfin, je peux toujours, de toute façon, la photographier. Après, montrer les photos, voilà, je dois toujours dealer avec sa deuxième maman, sa deuxième maman. Donc... Mais il faudrait que je m'y remette. J'avoue que oui, j'ai été freinée dans mon élan. Et maintenant que je peux montrer cette expo, oui, il faudrait que je me remette à la photographier parce que là, elle est dans un âge différent. Et forcément, elle a des intérêts différents. C'est une vraie ado qui adore écouter la musique, etc. Donc,
justement, est-ce que ça vous intéresse de photographier des ados, puisque vous aviez quand même un attrait sur l'enfance?
Oui.
Est-ce qu'on perd aussi un petit peu de cette joie naïve qu'ont tous les enfants? Peut-être que le rapport à l'image aussi change, oui. Puisqu'il y a une conscience de l'image qui est complètement différente.
Tout à fait, oui, parce que bon, mon fils s'est laissé photographier pendant très 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 longtemps, et puis effectivement à la préadolescence il ne voulait plus. Maintenant il accepte, mais bon voilà, pour pouvoir poster des belles photos de lui sur Insta. Enfin bon, c'est vrai que la période d'adolescence est compliquée sur le reflet de soi-même, hein, l'image que l'on a de soi, que l'on veut montrer, pas montrer. C'est vrai que si je veux recommencer à photographier Sidonie, il va falloir effectivement que je l'aborde différemment. Je vais essayer, je vais voir, je ne sais pas comment je vais l'aborder. L'adolescence, c'est un thème qui m'intéresse, mais qui est, voilà, qui est pas facile, entre effectivement tous ces ados qui se font des selfies toute la journée pour poster sur Instagram, et ceux qui vont se cacher, qui vont pas être à l'aise avec leur corps. C'est tout un thème en soi, en fait, qui peut être intéressant à travailler.
Du coup, là, elle est toute petite sur les photos. Et je remarquais qu'il y avait beaucoup de regards caméra, ou en tout cas qu'il y a beaucoup de regards assez frontal de sa part sur les photos. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce qu'il y a une forme de mise en scène dans les photos?
Alors, je pense qu'une des seules photos où elle a posé, c'est celle où elle est assise sur une chaise et puis elle met sa main dans les cheveux, un peu comme une diva. C'est la seule séance photo où elle s'est prêtée au jeu de poser. Sinon, toutes les autres photos ont été prises sur le vif, pratiquement toutes. Donc, il n'y a pas aucune mise en scène.
Est-ce qu'elle vous remarquait en train de la prendre en photo?
Oui,
qu'elle a compris
mes enfants,
qu'il y avait une attention particulière
oui,
sur elle?
Voilà. Mes enfants ont forcément grandi et ils me voyaient tout le temps avec l'appareil autour du cou, ou presque. Donc, bon, ils en jouaient un peu. Et puis, parfois... il faisait mine de fuir l'appareil photo, surtout mon fils, pas Sidonie. Mais maintenant, effectivement, il faudrait voir quel rapport elle aurait avec l'appareil photo, parce que ça fait quelques années que je ne l'ai pas photographié. Et puis elle a grandi, c'est une ado, donc oui, ça serait curieux. Je serais curieuse de voir comment elle se positionnerait par rapport à l'appareil.
Et est-ce qu'elle a déjà vu les photos exposées ?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Et alors, ça lui fait quoi d'être la modèle de sa maman ?
Elle en est fière et en même temps, elle paraît assez détachée quand même.
D'accord.
Elle était là lors d'un vernissage en Ariège. Et bon, bien sûr, tout le monde allait vers elle. Alors, qu'est-ce que t'en penses et tout. Et en même temps, oui, il y a une sorte de fierté parce qu'elle se voit sur les affiches et tout. Donc, elle est fière de ça. Puis une sorte de détachement, comme si elle avait l'habitude, voilà. Ça lui paraît presque normal, quoi.
Et comment on fait quand on... J'imagine qu'à un moment, tu as le déclic de te rendre compte que tu t'es en train de faire une série, que c'était pas juste voilà, des photos souvenirs, enfin de faire ce tri entre la photo souvenir et la photo artistique, etc. Et quelle distance on arrive à avoir face à son sujet quand on est à la fois la mère et la photographe.
Mais justement, il n'y a pas une distance. Et en fait, cette série, elle s'est faite après coup, en triant des photos. Et je sais que pour... bon, là, c'est une série qui trouve son public et je sais que le public l'adore. Après, si je veux l'emmener plus loin... je sais pas, dans des festivals plus cotés par exemple, ou bon, parce que je les ai déjà montrés lors de lectures de portfolio à des gens qui ont des galeries ou des musées, ou par exemple la directrice du Château d'Eau à Toulouse. Voilà, lors de lectures de portfolio, on est amené à voir des gens du sérail entre guillemets qui ont forcément une vision plus élitiste de la photo. Et j'ai eu des retours assez intéressants parce que effectivement, comme c'est une série que j'ai montée après coup et qui n'a pas été réfléchie du tout, il manque des photos qui vont plus montrer Sidonie dans son univers. C'est vrai qu'il y a beaucoup de portraits quand même assez serrés. Par exemple, il n'y a pas de photo d'elle dans sa chambre. Il n'y a pas de photo d'elle avec... bon, Sidonie est très 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 féminine, elle aime les bijoux, elle aime tout ce qui est paillettes. Et effectivement, il manquerait des détails qui vont plus montrer son univers. Et ça, forcément, c'est quelque chose que je n'ai pas réfléchi, vu que c'est une série qui s'est montée après. Et c'est peut-être des photos que je pourrais rajouter maintenant pour étoffer un peu son univers et ne pas avoir autant de plans serrés comme il y en a maintenant. Donc ça, je pourrais retravailler dessus et peut-être effectivement l'améliorer pour faire en sorte qu'elle aille chercher un public d'experts. Et parce que voilà, là je sais que mes photos plaisent au public averti, non averti, mais si je veux qu'elle emmène cette série plus haut, elle mérite d'être peut-être d'avoir quelques photos qui vont bonifier le tout et puis plus montrer l'univers de Sidonie, dans quel univers elle évolue, et un peu moins de plans serrés.
Et pourquoi le choix du noir et blanc?
Ben, le noir et blanc parce que c'est intemporel. Alors, à la fois intemporel. Moi, je suis une passionnée d'histoire et puis j'adorais me perdre dans les clichés noir et blanc. Et en même temps, le noir et blanc sublime les émotions. Avec le noir et blanc, on va davantage focusser sur les visages et les émotions. Alors que la couleur, on sera plus attiré par les détails du contexte. Donc le choix du noir et blanc s'est imposé très rapidement à moi. Voilà, parce que pour les émotions et puis parce que c'est intemporel.
Et si aujourd'hui la série devait continuer, est-ce qu'elle le serait toujours en noir et blanc avec une Sidonie adolescente?
C'est une bonne question, parce que c'est vrai que je me suis beaucoup ouvert à la couleur, ne serait-ce que parce que je vis maintenant de la photo et que je fais de la photo de mariage. Et même si on vient chercher pour le noir et blanc, je propose aussi de la couleur. C'est une bonne question. Peut-être que je ferai de la couleur, effectivement, pour bien faire le distinguo entre cette première partie et la Sidonie maintenant qui est en passe de devenir une jeune adulte, une adolescente. C'est plus la petite fille que j'ai photographiée il y a 10 ans, quoi.
Mmh. Et peut-être qu'elle aurait un côté moins universel de l'enfance, mais plus une personnalité qui s'affirme.
Tout à fait. Parce que là, elle a vraiment une personnalité qui s'affirme, comme tout adolescent à cet âge. Hein. Elle écoute, elle a ses chanteurs préférés. Elle est très romantique. Elle adore regarder les films romantiques, les films d'amour. Elle a un petit amoureux, donc elle a 15 ans et c'est une adolescente, une vraie.
Et justement, est-ce que... là, vous avez photographié vos enfants, principalement. Est-ce que vous avez déjà photographié d'autres enfants ? Est-ce que vous avez déjà photographié d'autres enfants trisomiques ? Est-ce que ça vous intéresserait ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est vraiment part d'une intimité ?
Alors, il m'est arrivé de photographier d'autres enfants dans un IME. Mais c'était pour vendre les photos aux parents. Donc, toujours dans le cadre de mon travail d'artisan, photographe artisan. Bien sûr, je n'ai pas le droit à l'image sur ces photos. Mais je pense que oui, j'aimerais bien quand même. J'aimerais bien. Alors c'est vrai que c'est toujours délicat hein, d'avoir le droit à l'image pour en vue d'exposer. Bon après, je pense que ça peut se trouver. Ça n'en tient qu'à moi de le décider, puis d'aller de trouver des parents qui accepteraient que je travaille sur leur enfant que je pourrais exposer par la suite. Ça m'a été demandé plusieurs fois, on m'a contacté, même un magazine spécialisé sur le handicap, je pense que c'est France Handicap, ils m'ont contacté, me demandaient si j'avais des photos d'autres enfants que ma fille. J'avoue que c'est toujours une question de finance aussi, parce que quand on est photographe, déjà je m'estime chanceuse de pouvoir en vivre en tant qu'artisan, et c'est vrai que c'est un travail quand même au long cours, et puis quand on est photographe, l'aspect financier a son importance, et puis on court après le boulot, après l'argent. Mais c'est sûr que si je pouvais trouver le moyen d'aller chercher une subvention, par exemple, et peut-être que j'aurais juste à faire ce qu'il faut pour aller la demander, mais d'aller chercher une subvention pour travailler sur ce sujet, je pense que ça me plairait énormément, énormément.
Et peut-être que pour finir, est-ce que vous avez, un noir et blanc qui est... très, très fort, très contrasté. Est-ce qu'il y a des références artistiques qui, des fois, ont pu être des sources d'inspiration, des photographes de chevet, dans le même registre ou pas ?
Oui, c'est sûr, comme je vous disais, ayant une passion pour l'histoire, puis donc forcément la photo, très, très tôt, j'ai été attirée par les grands noms du noir et blanc, hein, Cartier-Bresson, Doisneau, ce
grand nom de l'enfance aussi.
C'est ça, Willy Ronis. Forcément, je malgré moi, c'est ça m'influence, parce que je fais, je travaille de la photo scolaire aussi, et je me suis lancée dans la photo scolaire au moment du Covid, quand ma saison des mariages avait été mise par terre. J'ai contacté les écoles, les seuls élèves qui ne portaient pas le masque, c'était les écoles maternelles. Et en fait, j'ai contacté les écoles en leur proposant justement de faire de la photo scolaire en mode reportage, en totale immersion dans l'école. En leur proposant des photos style Doisneau. Donc je vais dans les écoles, j'y passe une, deux journées, voire trois journées, et puis je photographie les enfants au pupitre, en interaction avec leur enseignant, en train de jouer dans la cour de récré, et ça c'est du style Doisneau pur, et ça plaît énormément aux parents, énormément. Forcément Doisneau, ça fait penser à Doisneau, c'est comme ça que je me vends.
J'y avais pensé aussi, évidemment. Merci beaucoup pour cette discussion, et rendez-vous pour le vernissage demain. Merci à tous d'être venus. À cette rencontre.
Merci à vous.